Il y a une animation. Ouais, le problème, c'est qu'on est assez en
En
retard pour la
retard.
table ronde. Donc, à moins qu'il y ait une question rapide et on fera une réponse rapide par rapport à ce sujet. Non. Bon. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Bruno Canredon. Je vais avoir le plaisir d'être le modérateur de cette table ronde sans être vraiment un grand spécialiste du sujet. Alors, dans la salle, il y a sans doute pas mal de gens qui s'y connaissent, on l'a vu hein, depuis ce matin par rapport aux questions. Il y a peut-être quelques personnes qui sont venues en essayant d'y voir plus clair aujourd'hui. C'est pas forcément évident, c'est un domaine qui est très complexe. Alors, on va essayer de se tourner vers l'avenir déjà et de parler d'amélioration cet après-midi. Hein. C'était un peu la promesse après un tableau qui n'était pas forcément réjouissant ce matin. Donc, je vais vous présenter les quatre. Alors, il y a trois structures qui ont déjà parlé, mais ce n'est pas forcément les mêmes interlocuteurs. Donc c'est Pauline Servent qui a parlé ce matin pour Génération Future. Donc je rappelle qu'elle est docteur en pharmacie toxicologie. Pour l'agence de l'eau, il va lever la main Adour-Garonne. C'est Martin Hague qui est chargé de mission eau potable. Donc à l'agence, il y a ses collègues qui sont intervenus juste avant, mais c'était important de savoir un peu ce que faisait l'agence de l'eau, donc Garonne, parce que oui, il y a beaucoup d'acteurs et il faut essayer d'identifier qui fait quoi, c'est ce qu'on va essayer de faire là. Pour l'agence régionale de santé, qui ne s'est pas exprimée encore, il a parlé très brièvement ce matin, Yannick Durand, qui est le responsable de la cellule mutualisée eau. Et puis, enfin, pour France Nature Environnement, Anna Cohen, chef de projet agriculture et alimentation. Donc, merci à tous les quatre pour cette table ronde. Donc, l'idée, c'est de traiter le sujet de l'information. On a compris ce matin qu'il y avait des trous dans la carte, on pourrait dire, ou dans la raquette. Donc, d'essayer de voir comment on peut améliorer ça, la circulation de l'information entre tous les protagonistes. Et puis, les leviers d'action. On a vu qu'il y a un certain nombre de choses, on vient de le voir. Savoir comment on peut essayer de construire et d'améliorer. Je vais donner peut-être la parole en tout premier à l'Agence régionale de santé, qui s'est exprimée très brièvement, mais pour rappeler un peu le rôle de l'agence, de quoi est-ce qu'elle est, de quoi elle doit s'occuper dans cet écosystème de l'eau potable.
Oui, merci. Rebonjour à tous. Donc, l'Agence régionale de santé, c'est un établissement public autonome qui est placé donc sous la tutelle du ministère en charge de la santé. Alors au sein de la CME, je me présente rapidement. Donc Yannick Durand, je suis responsable de la cellule mutualisée eau au niveau régional. Donc la CME, il y en a, on est la seule ARS à avoir une CME et on est en charge. On est une équipe de 9 personnes, environ 6 ingénieurs, en charge de l'eau potable, les piscines, les baignades, les légionnelles, le thermalisme, les eaux embouteillées et les eaux non conventionnelles. Les eaux non conventionnelles, c'est la réutilisation des eaux usées et traitées, c'est l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine. Et on travaille en lien, tous les neuf, avec les 13 délégations départementales. Il y a des délégations départementales pour chaque département, donc on en a 13 dans la région Occitanie. Et on est en charge de, tout le monde est en charge de s'assurer du respect des normes et s'assurer de la mise en œuvre de la politique du ministère de la Santé. On organise et on veille à la sécurité sanitaire. Alors, plus exactement au niveau des services santé environnement des délégations départementales, donc on s'occupe de la partie notamment eau potable. Là, je vais vous parler de la partie eau potable qui nous intéresse aujourd'hui. Trois missions, ça va être prévention, contrôle, inspection. Prévention, on vous en a parlé, on travaille en lien avec l'agence de l'eau, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été donnés, et donc on va accompagner les collectivités pour qu'ils mettent en œuvre la réglementation relative aux eaux destinées à la consommation humaine. Cette réglementation, elle est complexe. Certains ont fait le choix de s'associer à ce qu'on appelle des fermiers, la Veolia, Suez, SAURE, et d'autres travaillent en régie. Donc on va accompagner les collectivités pour leur expliquer comment faire et pour qu'ils puissent un petit peu décortiquer et traduire ce que leur demande la réglementation. Prévention également, ce que j'ai indiqué ce matin, on a fait des analyses de PFAS en amont de la réglementation. La réglementation, c'est au 1er janvier 2016. On a fait des analyses pour pouvoir savoir avant l'échéance réglementaire, où est-ce qu'on en est? Pourquoi le savoir avant pour mettre en œuvre plus tôt, le plus tôt possible, les mesures pour supprimer, limiter l'exposition de la population? Ça a été bénéfique, puisque je vous l'ai dit ce matin. Aujourd'hui, sur toutes les analyses qu'on a faites, maintenant, l'eau est conforme aux normes. On n'a pas fait tout partout. On a fait là où on pensait qu'il y avait des PFAS. On en retrouvera d'autres. on recommencera. On a fait également, à un moment donné, on a eu des pourquoi prévention. On a été alerté par le journal Le Monde qui avait des PFAS à Martre-Tolosane. On a fait des analyses dès qu'on a pu avec le laboratoire COFRAC. On a vérifié, on a refait des analyses, on a fait un suivi mensuel. Finalement, c'est conforme aux normes. On a fait, je dure un petit peu, mais bon, parce que je trouve que ça peut être intéressant. Il y avait aussi la problématique de Salindre, l'usine Solvay dans le Gard, où il y avait du TFA. Donc, on a demandé à un laboratoire qui soit COFRAC. Pourquoi COFRAC? Parce que ça permet d'avoir de la robustesse au niveau des rendus des analyses et d'avoir ce qu'on appelle de la répétabilité. Merci. C'est-à-dire que deux échantillons identiques qui vont être analysés, il faut qu'on ait le même résultat. Donc, dès qu'on a eu un laboratoire, dès qu'on a su qu'un laboratoire était COFRAC, le laboratoire Janesco d'ailleurs, on a fait des analyses de TFA sur toutes les collectivités qui étaient susceptibles d'être alimentées par les eaux rejetées en aval de l'usine Solvay. Donc, on a fait ces analyses, on les a fait en janvier, comme on s'y était engagé. On est conforme aux normes, alors à la norme aux 60 microgrammes par litre.
Alors, je voudrais pas qu'on rentre trop dans les détails parce que les grandes missions, prévention, contrôle.
Deuxième mission, contrôle. Donc, on assure ce qu'on appelle le contrôle sanitaire. Donc, on fait réaliser des analyses par des laboratoires agréés au niveau du réseau d'eau destiné à la consommation humaine. Alors, ça, on va analyser les captages, les stations de traitement et aussi au robinet du consommateur. Ces analyses, elles vont porter sur des paramètres microbiologiques, des paramètres chimiques, donc des pesticides. Des pesticides, il faut savoir que quand on fait la liste complète des pesticides, on en fait 300. 300 pesticides. Les PFAS, ça commence aujourd'hui, c'est vrai qu'on en fait 20. Demain, on fera le...
Dans l'appel d'offres, j'imagine, que vous faites au laboratoire, il y a 300 pesticides.
Voilà, on fait des appels d'offres pour choisir les laboratoires. On en fait un par département, un lot par département, et les laboratoires vont répondre et on va choisir le laboratoire qu'on considère qui est le plus adapté avec un jeu... technique et aussi financier. C'est spécifique, c'est le seul appel d'offres où on n'est pas les payeurs. C'est les responsables des collectivités qui sont les payeurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit prendre les plus chers, donc fais attention à ça.
Contrôle tous les combien ?
Le contrôle, ça va dépendre de ce qui est prévu dans la réglementation européenne, la directive européenne. Donc au captage, ça va être, si un captage est beaucoup alimenté, s'il alimente beaucoup de personnes, ça va être très fréquent. Ça va être, on va pouvoir passer une fois par mois. Et sinon, en distribution, ça va dépendre aussi de la taille de la population. Tout le monde n'est pas égaux, mais pourquoi ? Parce que les analyses sont payées par l'exploitant et ça va être en fonction donc, de la population desservie. Une commune de 50 habitants, elle ne va pas pouvoir se payer une analyse toutes les semaines ou tous les jours. À Toulouse, vous avez des analyses qui vont être au moins toutes les semaines, deux fois par semaine, voire encore plus souvent que ça. Il y a beaucoup de population, donc il y a un enjeu sanitaire aussi.
Là, vous parlez au niveau des captages ou au niveau du robinet ?
Là, c'était au niveau du robinet.
Robinet.
Captage, ça va être une fois par mois pour les plus grandes. Et sinon, parfois, les captages, on peut aller une fois tous les 5 ans aussi. C'est vrai. Des fois, c'est beaucoup moins fréquent. Contrôle. Et enfin, le troisième point, inspection. En cas de besoin, on va prévoir des inspections qu'on va annoncer. Voire maintenant, on fait beaucoup d'inspections inopinées au niveau des eaux embouteillées et du thermalisme, mais on fait des inspections pour s'assurer également que la réglementation est bien mise en œuvre conformément à ce qui est prévu par les textes. Et là, on va se rendre au captage, on va se rendre au niveau de l'usine de traitement, on va dérouler la grille et regarder ce qui va et ce qui ne va pas.
Alors, une question de ma part, je dis béotien, je n'y connais rien. J'ai vu que dans la feuille de route interministérielle du gouvernement, un des premiers points, c'était identifier les captages sensibles. S'il y a des appels d'offres avec des laboratoires qui, alors, font des mesures maximum tous les 5 ans pour les tout petits, comment ça se fait qu'on n'ait pas déjà une vision relativement claire de la carte des captages qui sont en bon état et de ceux qui pourraient être sensibles ?
Alors, on a, pour identifier ces captages, on a les qualités d'eau qui vont, elles évoluent. Et pour pouvoir les identifier, il faut avoir des règles claires, justement. Quels pesticides on prend, quels polluants on prend. Au début, on devait prendre que les pesticides. Maintenant, finalement, on va prendre beaucoup d'autres paramètres, également les PFAS, pour pouvoir déterminer quels sont ces captages sensibles et quels sont les captages qui répondent aux critères qui sont définis par la feuille de route. Est-ce qu'on quand on a une nouvelle analyse, une seule analyse, est-ce que ça l'a fait sortir de la feuille de route ou pas, de la liste de ces captages sensibles ou pas? Combien il faut d'analyses? Combien il faut? Donc il y a pas mal de, il y a beaucoup de critères qui vont permettre de déterminer cette liste de captages sensibles et ce qu'il y a à faire. Mais peut-être que...
Je voulais donner la parole à votre voisin de l'agence de l'eau à Dourgarande, parce qu'on a vu que vous aviez aussi des cartes avec des prélèvements pour les captages. Moi, je voulais demander, parce que ce matin, pour le Gers, on nous a parlé du prix de l'échantillonnage d'affaires pour avoir les retours des mesures. Est-ce que c'est juste l'ARS qui fait les contrôles à travers ses éventuels appels d'offres? Est-ce que l'agence de l'eau fait ses propres mesures aussi sur les captages? Et est-ce qu'éventuellement, il y a pas une mutualisation? Je ne sais plus trop qui mesure quoi.
Merci. Oui, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, l'agence de l'eau, elle a d'autres objectifs et d'autres missions que l'ARS, et notamment, elle n'a pas une mission réglementaire. Donc, l'agence de l'eau, elle va essayer d'atteindre les objectifs du SDAGE, du schéma global, et elle essaye de suivre le bon état des eaux. C'est-à-dire, elle va faire des analyses sur les eaux brutes, les eaux naturelles, j'allais dire. Là, elle a un programme de mesures pour arriver à suivre et pour arriver à dire à la fin du stage, par exemple, est-ce qu'on s'est amélioré en qualité d'eau de façon globale.
Donc, pas forcément au niveau des captages comme l'ARS.
Tout à fait. Par contre, on a aussi une mission, comme il vous a été expliqué, d'accompagnement des collectivités pour que la qualité d'eau s'améliore. Et c'est là où on rejoint un petit peu plus qu'un petit peu.
Alors vous avez tous les deux des missions d'accompagnement, voilà, c'est là où ça devient plus compliqué.
Voilà, mais l'accompagnement des collectivités, comme on vous l'a dit aussi tout à l'heure, il nous faut des porteurs de projets, c'est-à-dire que l'agence de l'eau, elle va financer, on a eu un très bon exemple avec O17, par exemple, on va financer O17 qui, eux, vont faire des mesures préventives, du suivi de la qualité de l'eau pour améliorer leur fourrage, pour faire toutes les actions que la collègue a décrites tout à l'heure. Donc là, l'agence de l'eau, elle va simplement financer ces collectivités. Et on l'a dit aussi, ces collectivités, il faut qu'elles aient une bonne gouvernance, qu'elles soient capables de faire ce travail. C'est très technique, vous l'avez vu. Et imaginez une petite commune rurale, elle n'aura jamais les moyens techniques, même un directeur ou quelqu'un pour faire ça. Donc, ou lancer un appel d'offres, par exemple. Contacter un laboratoire, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment des structures de gouvernance, des syndicats d'eau qui soient à la bonne échelle, comme l'a expliqué ma collègue. Alors, j'avoue que O17, c'est un de nos meilleurs exemples. On a un syndicat départemental qui a toutes les capacités pour le faire. Et on essaye justement d'accompagner les collectivités pour qu'elles se regroupent à la bonne échelle et qu'elles aient les moyens de faire ça. Et nous, ça va faciliter notre travail d'accompagnement et ça va faciliter aussi le travail de l'ARS aussi.
Alors, juste une question par rapport à ça. On n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé de certains établissements qui n'étaient pas forcément bien gérés ou en bon état. Est-ce qu'il y a un lien direct entre la taille d'un syndicat et les moyens financiers qu'il peut avoir et la qualité de l'eau, où c'est beaucoup plus compliqué que ça? Ou est-ce que, par exemple, pour Veolia, on sait que là, il n'y aura pas de problème de qualité avec les normes actuelles, attention, et que pour les petits syndicats, on n'en a pas trop parlé, c'est un problème qui se pose. Hein. Peut-être que la mutualisation et le regroupement va devenir obligatoire parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Mais est-ce que vous avez fait ce lien, donc soit l'agence de l'eau, soit l'ARS?
Non, mais pas forcément. C'est vraiment je suis ingénieur d'eau potable, je peux vous dire que c'est vraiment du cas par cas sur tous les territoires, la gestion de l'eau potable. Ça va dépendre de la ressource, de la qualité de la ressource, mais aussi de toutes les problématiques que vous avez entendues aujourd'hui, quel est le contexte agricole, par exemple. Vous avez des départements qui sont entièrement boisés, enfin, ou majoritairement boisés, ou qui ont que de l'élevage, ou comme en Charente-Maritime, vous avez que des céréales destinées à l'export. Donc, vous avez des cas très, très particuliers. Et donc, on ne peut pas du tout généraliser comme ça. Ce qui est sûr, c'est que quand on veut quand même mener des actions, il faut qu'on ait un minimum, un service technique minimum qui soit en place. Et une petite commune rurale, elle ne peut pas avoir ce service. Et pour que ce service fonctionne, il faut qu'il ait les moyens financiers. Les moyens financiers, c'est les factures d'eau. Donc si vous avez un syndicat d'eau qui a 1000 abonnés, ben, il n'y aura pas assez d'argent pour mettre en place un service technique, tout simplement. Et quand on arrive à 5000 abonnés, 10 000 abonnés, ça commence à être faisable, mais c'est un peu limite, et etc. Plus ça grandit, plus on aura les moyens de le faire. Mais c'est quand même au cas par cas, et ça va dépendre de ce qu'on trouve sur le terrain.
Je vais finir le petit tour de table, parce qu'il va y avoir forcément beaucoup de questions, et on va plutôt les privilégier. Pour France Nature Environnement, par rapport à l'information, on l'a vu, quelles seraient, et on vient de parler du prix de l'eau également, quelles seraient les mesures qui pourraient être mises en place? On a parlé aussi de la participation à la gouvernance ou au mécanisme décisionnel qu'il pourrait y avoir. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré aujourd'hui?
Merci. Donc pour améliorer l'information, la diffusion de l'information, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les listes de molécules qui sont suivies sur chaque territoire soient rendues publiques, ainsi que les données sur la qualité de l'eau, qu'elles soient plus accessibles, si c'est ça la question, hein, plus compréhensibles pour tout un chacun. Donc Pauline a évoqué ce matin une carte qui va beaucoup nous aider, nous, les associations de protection de l'environnement, à comprendre déjà où en est la pollution, quelles molécules posent problème, quelles communes sont concernés par les pollutions, pour ensuite derrière pouvoir aller alerter et travailler avec les acteurs du territoire. On aimerait également que les cahiers d'épandage soient de façon anonyme, bien sûr. L'idée n'est pas d'incriminer les agriculteurs, mais qu'ils puissent être mis à disposition des scientifiques pour pouvoir améliorer la connaissance entre pathologie, exposition à certains pesticides. C'était quelque chose qui était proposé dans la première version d'EcoPhyto 2030, qui n'a pas été retenu dans la version finale. Donc ça nous semble un point très important aussi pour comprendre en fait quel lien on peut faire entre pesticides et santé. Voilà, je ne sais pas si je réponds.
Il y a le dispositif à propos, je ne sais pas si on parle de dispositif aussi qui va...
C'est un projet qu'on pilote, nous, à France Nature Environnement, et on fait du plaidoyer, on fait de l'appui au plaidoyer pour les associations du mouvement, et on participe par exemple à la feuille de route interministérielle là, que vous avez évoquée avec Génération Future. On est les deux associations de protection de l'environnement qui sont représentées dans ce cadre-là, et du coup je voulais évoquer sur les points de prélèvement sensibles, les trois ministères, donc agriculture, environnement, santé, les services techniques ont abouti à un consensus sur le seuil au-delà duquel on devient un point de prélèvement sensible. Et puis après il y a tout ce qu'il y a autour, en combien de temps on sort de la sensibilité, est-ce qu'il faut 1, 2, 3 prélèvements qui dépassent le seuil pour être un point de prélèvement sensible, etc. Mais en tout cas sur le seuil, il y a un consensus entre les ministères. Nous, on soutient ce seuil. La Fédération nationale d'agriculture biologique également, ainsi que la Confédération paysanne. Par contre, on a la FNSEA, la coordination rurale et les chambres d'agriculture qui s'opposent totalement à ce seuil, qui est un seuil qui vise à prévenir les pollutions, c'est-à-dire à agir avant d'atteindre la non-conformité. Et donc nous, c'est quelque chose qu'on va pousser, et puis on espère que ça va être maintenu dans les arbitrages qui seront faits ensuite par les ministères.
Merci. Pauline Servant, même question sur l'information. Comment améliorer la lisibilité des cartes et les data aussi? Des open data de l'ARS, on a vu, mais qui n'ont pas forcément la forme. Ça nécessite un peu de travail après de réinterprétation.
Juste avant, je voudrais juste compléter ce que vient de dire Anna sur la feuille de route pour l'identification de ce que c'est un captage sensible. Donc Anna a parlé des seuils qui sont effectivement, qu'on va soutenir également aux générations futures. Il y a quand même un problème dans la méthodologie qui est proposée jusqu'à présent, c'est qu'elle n'inclut pas les métabolites non pertinents. Et ça, c'est pour nous, c'est quand même un gros problème, parce que du coup, pour un captage sensible...
C'est... Alors, madame prendra la parole juste après, parce qu'elle dit que ce n'est pas vrai. Je vous laisse finir et je vous donnerai la parole juste après.
Qui sont inclus sont les paramètres qui sont réglementés par... Et dans ces paramètres, il n'y a pas les métabolites qui sont non pertinents. Il y a d'autres substances qui seront aussi absentes, comme les perchlorates, qui sont des problèmes dans certaines régions. Voilà, ça, c'était une petite parenthèse sur les captages sensibles. Concernant l'information, l'accès à l'information, avant de parler des données ARS, il y a d'autres données qui sont produites par les producteurs d'eau potable, les personnes responsables de la production de l'eau potable, qui doivent aussi faire des données, des mesures dans le cadre de la surveillance dont ils ont l'obligation. Et ces données-là, pour le coup, elles ne sont pas du tout accessibles ni publiées nulle part. Et donc, c'est une de nos demandes, c'est que ces données qui sont produites par les producteurs et distributeurs d'eau potable soient, elles aussi, au même titre que les données fournies par les ARS, disponibles en open data.
Que ce soit des gros, que ce soit des petits.
Oui, gros ou petits.
C'est-à-dire que Veolia, par exemple, ne fournit même pas. Je cite cet exemple-là, c'est un des plus gros, mais ne vous les fournit pas.
Il y en a peut-être certaines qui sont diffusées, mais en tout cas, ce n'est pas accessible en open data. Et il faudrait demander un par un ces données-là, donc c'est très compliqué. Et on sait qu'il y a certains producteurs qui font des mesures au-delà de ce que fait l'ARS et qui vont chercher d'autres substances, comme le TFA, par exemple. Il y a plusieurs producteurs d'eau potable qui font des mesures de TFA qui ne sont pas encore faites par les ARS. Donc ça, c'est le premier point. Et sur les données donc, ARS qui sont bien disponibles, ça il faut quand même le souligner, ce n'est pas dans tous les pays où les données comme ça sont disponibles. Elles sont disponibles, mais elles sont complètement illisibles pour le grand public. Et si vous voulez, il y a un site du ministère de la Santé sur lequel il y a tous les relevés pour chaque réseau d'eau qui sont bien disponibles. Et pour aller voir, par exemple, si on cherche les pesticides, il faut aller chercher un par un les relevés, aller voir toutes les analyses qui ont été faites pour tomber sur l'analyse qui a fait les pesticides, et il faut se les taper tous un par un.
Comme on a vu pour les études sur les rats ce matin, c'est un peu la même chose.
C'est un peu ça, ouais, c'est complètement ça. Et donc, il y a plusieurs acteurs. J'ai parlé du rapport des inspections générales ce matin qui ont fait l'état des lieux sur les pesticides. Dans ce rapport, ils disent qu'il faut vraiment améliorer l'accès à l'information et faire des outils en fait, qui permettent de rendre ces informations compréhensibles et visuelles. Donc on n'est pas les seuls à dire qu'il faut le faire. Et donc, comme vous l'aurez compris, c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous faisons, ce que nous sommes en train de développer donc avec Data for Good. Normalement, si tout va bien, ça sortira le 16 octobre. Et donc, ce sera un outil, une carte interactive qui permettra, soit en cliquant sur la carte, soit en tapant son adresse, d'aller voir, de savoir quelles mesures, quelles substances ont été retrouvées. Et de façon très pédagogique, on a séparé en catégories de polluants. Donc, ça va montrer les pesticides, les PFAS, mais aussi les nitrates, les perchlorates. Je l'ai dit, c'est un problème dans le nord de la France. Et le CVM, qui est aussi un résidu de plastique, c'est aussi un problème dans certaines régions. Et donc, en cliquant, en tapant son adresse, on pourra aller voir ce que donnent les résultats des dernières analyses qui ont été faites. Il y aura aussi des éléments d'interprétation. On dira si c'est conforme au seuil ou pas, ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a un risque pour la santé. Il y aura tout autour de cette carte. Des éléments pédagogiques qui permettront d'interpréter et de donner aux gens les clés en fait, pour comprendre les données qui sont faites. Et il y aura aussi des bilans pour chaque année qui vont permettre de voir l'évolution au fil des ans. Donc à partir de 2020, on fera des bilans pour chaque année, et quand on passe d'une année à l'autre, c'est assez flagrant, notamment par exemple pour les nitrates. On voit que les zones qui sont en rouge restent en rouge au fil des années. Et donc ça donne une indication non seulement sur l'efficacité des mesures qui sont prises, et aussi sur la chronicité de l'exposition, parce que c'est ça qui est important quand on parle d'exposition à des polluants à faible dose, c'est la durée d'exposition est très importante. Et donc ça permettra de mettre en évidence que dans certaines régions, les gens sont exposés depuis très longtemps à ces substances.
Merci beaucoup. Alors, il va y avoir... Je pense beaucoup de questions, donc je vais pas les faire parler trop longtemps là, parce qu'il y aura beaucoup de relances par rapport à ce qu'on va vous demander. Un droit de réponse peut-être par rapport aux substances.
Oui, non, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Je travaille sur l'arrêté qui va être pris en fin d'année pour déterminer les captages sensibles en interministériel avec la direction de l'eau. Je peux vous confirmer qu'il n'y a pas de distinction entre les métabolites pertinents et non pertinents. Ils sont tous pris de la même façon, à 80% du seuil, c'est-à-dire à 0,08 microgrammes litre. Et s'il y a dépassement de cette molécule-là, de ce seuil-là, la molécule pertinente, elle est prise, non pertinente, elle est prise en compte comme une molécule pertinente. Il n'y a pas de distinction de fait, justement pour être, comme vous l'avez souligné, être très en amont des problèmes et ne pas agir quand le problème arrive au niveau de l'eau distribuée.
Alors, si c'est le cas, c'est vraiment...
C'est le cas, je vous affirme que c'est le cas.
Il faudra peut-être changer la formulation du texte, parce que le texte qui a été mis en consultation avec toutes les parties prenantes du groupe national captage, ce texte, il dit qu'il faudra suivre uniquement les substances qui sont visées par l'arrêté du 11 janvier 2007, que vous devez connaître. Et cet arrêté, il ne vise que les métabolites pertinents. Donc, voilà. Il faudra peut-être revoir la formulation.
Donc là, c'est une bonne nouvelle. Et ça représente... On peut chiffrer les métabolites non pertinents. On peut chiffrer ce que ça représente ou pas
Il peut y avoir beaucoup, mais aujourd'hui, parle surtout des métabolites... emblématiques qui nous ont posé beaucoup de problèmes dans l'histoire, c'est le métolachloréza, NOA et OXA. Mais c'est surtout le métabolite ESA, le chlorothalonil qui nous pose aussi quelques soucis, en tout cas en Adour-Garonne. C'est les deux métabolites qui sortent énormément. Et on a des métabolites qui, eux, restent pertinents, qui sont historiques, qui sont les métabolites des triazines. Triazines qui sont interdites depuis 2003 et qu'on a toujours dans certains systèmes aquifères parce que l'eau se renouvelle très lentement et qu'on a concentré pendant des années ces métabolites dans des systèmes qui bougent assez lentement.
Merci beaucoup. Alors, vous pouvez lever la main pour tous ceux qui ont des micros. Il y a madame qui va prendre la parole. Pour tous ceux qui ont des micros, ça ne posera pas de problème. Pour ceux qui sont au fond, on a pris les deux micros à main qui restent. Donc, ce que je vous propose, c'est de descendre. Vous voyez, il y a un siège en haut, au milieu, là, où il y a un micro, un siège qui est libre. Si jamais l'un ou l'une d'entre vous veut prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main, puis à descendre à ce siège. Là, vous allez avoir un micro qui sera pour vous. Madame.
Oui, moi, je pensais peut-être être hors sujet, mais ce que je voulais dire vient d'être évoqué. Je voulais parler du chlorure de vinyle du CVM, le chlorure de vinyle monomère, qui est donc dans les conduites, qui est à l'intérieur des vieilles conduites, des vieilles canalisations d'eau. Le magazine Vert a sorti une carte de France dans laquelle on a vu que plus de 5500 communes en France sont concernées par le dépassement du seuil réglementaire de 0,5 microgrammes par litre. Et dans le Gers, nous avons énormément, je ne sais pas le nombre exact, mais nous avons beaucoup de communes qui dépassent ce seuil jusqu'à un seuil qui arrive à 10 microgrammes par litre. Alors là, je pense que
m'adresse à la RS peut-être.
Voilà. Là, il n'y a pas de pratique agricole à changer. Il n'y a personne, mais il faut des sous. Parce qu'il y a des canalisations à changer. Ça coûte très cher.
Oui.
Donc, est-ce que quelqu'un sait qui doit payer ? Les seules personnes qui ont des sous ici, c'est Adour-Garonne. Peut-être que vous pourriez nous donner un peu de sous pour payer les canalisations. C'est pour ça que je vais peut-être m'adresser à vous. Et monsieur de l'ARS, est-ce que vous savez, vous connaissez ce dépassement qui est vraiment nocif pour la santé ? Et qu'est-ce que vous en faites ?
Voilà. Le seuil et les sous.
Oui, tout à fait. Non, mais vous avez raison, surtout sur le Gers, on a des collectivités, des endroits où on a des taux de CVM qui est un gaz, hein, un gaz incolore, inodore, qui sont supérieurs aux normes. Et c'est la particularité, c'est que c'est sur des bouts de réseau. Donc ce sont des canalisations, comme ça avait été dit ce matin, qui ont été posées, enfin qui datent avant les années 80, qui étaient en PVC et pour lesquels on a un relargage donc de ce gaz et qu'on va retrouver dans les robinets parce que l'eau elle met du temps, disons qu'elle va stagner et l'eau au contact de la canalisation, il va y avoir une libération de ce gaz. Donc on a c'est pas comme toutes les UDI. Les UDI, quand on a une non-conformité pesticide, c'est toute l'UDI qui est concernée. Là, ça va être des bouts, des petits bouts, parce qu'à tel morceau de canalisation complètement au bout de réseau, l'eau elle est peu renouvelée, l'eau elle va stagner et la population, les personnes qui sont au bout de réseau vont être affectées par ces non-conformités. C'est un gaz cancérigène. Le CVM, c'est pas probable, hein, c'est certain, c'est sûr. Là, on le sait. Donc, il y a des restrictions de consommation qui sont faites sur les zones où on sait qu'il y a ces, où les normes sont dépassées. Ça, c'est très fréquemment, c'est repris dans la dépêche, au niveau du, notamment au niveau du Gers. On en a, il y a beaucoup d'endroits où il y a ces restrictions de consommation d'eau. Et la difficulté, c'est qu'il faut changer les canalisations. Le changement des canalisations, des fois, ça va être des kilomètres et des kilomètres pour un abonné, une famille, deux familles. Là, j'ai passé la parole à l'agence de l'eau. Donc, c'est vrai que ça va être très cher. C'est des coûts pour la collectivité qui va vouloir avoir des aides parce que ça va coûter cher. En attendant, ça, qu'est-ce qu'ils sont mis en place pour supprimer l'exposition de la population ? Ça va être des purges automatiques. On va proposer des purges automatiques vont être mises en place pour que l'eau ne stagne pas, qu'elle soit renouvelée. Mais c'est du gaspillage d'eau, puisque c'est de l'eau potable, ça va être du gaspillage. Donc les endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, ça va être, ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? On donne de l'eau potable ou est-ce qu'on donne de l'eau non potable et on gaspille de l'eau dans le milieu naturel ? Donc il y a beaucoup de difficultés pour gérer ces problématiques. On n'a pas une vision complète de la situation dans la région, je le dis, hein, puisque c'est aux collectivités, au PRP2, de nous faire l'état des lieux. On n'a pas tous les retours. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a les retours des bons élèves qui nous disent « on a des problèmes ici, donc on met en place des restrictions de consommation d'eau ». Et les collectivités qui ne font pas le boulot, qui ne nous ont pas fait le point, les bilans sur les canalisations PVC, sur les taux de CVM, elles passent sous le radar. Et on a peut-être des problématiques de CVM. Donc là, on a un gros travail qu'on est en train d'engager pour aller vers chaque collectivité. On en a 1000 dans la région Occitanie pour avoir ce retour, pour savoir l'état des lieux des canalisations PVC, voir s'il y a un risque sanitaire ou pas. Je passe la parole à mon collègue.
Martin Aigle, pour le financement, on va dire, dans un cas comme ça, qu'est-ce qui est finançable par l'agence de l'eau ? Qu'est-ce qui dépend de la collectivité ? Qu'est-ce qui est faisable ?
Oui, bon, c'est un problème sur lequel l'ARS, d'ailleurs, nous avait alerté depuis longtemps, au moins depuis quelques années. Bon, vous savez, à l'Agence de l'eau, comme on vous l'a expliqué, on a un budget, ça a bien été décrit dans la petite vidéo, là, on a un budget annuel et c'est le conseil d'administration et le Parlement de l'eau qui décident comment on le répartit. Vous voyez, il faut une certaine solidarité. Et donc la partie qu'on consacre à l'eau potable, au réseau d'eau potable, à l'accompagnement des syndicats d'eau, il est finalement assez réduit dans tout le budget parce qu'on favorise maintenant beaucoup plus le travail sur la biodiversité, sur le rétablissement des milieux naturels. Voilà, donc, et le rétablissement de bon état des masses d'eau. Donc c'est quand même un problème qu'on a bien pris en compte et on est en train de voir au niveau de l'agence quel budget on pourrait assigner à ça, mais comme vous l'avez dit, ça coûte très cher, donc on pourrait utiliser tout le budget de l'agence.
Ça ne se faisait pas du tout ? C'est nouveau pour vous ou il y avait déjà des opérations quand même de participation ?
On a peut-être dû en faire quelques-unes, mais c'était pas encore une politique, parce qu'il faudrait vraiment qu'on se détermine un budget et qu'on se dise bon voilà dans quelles conditions on pourrait appuyer les collectivités. Et de toute façon, l'agence de l'eau, elle travaille par aide. On aide les collectivités, mais avec un certain pourcentage, par exemple 30% sur les travaux, 50%, on pourrait déterminer un taux. Mais il faut que la collectivité, elle trouve le reste du financement. L'agence de l'eau ne pourra pas tout prendre en charge. Et des fois, pour les collectivités, je vous l'ai dit, elles sont souvent trop petites. Elles n'ont pas les moyens même de financer la moitié des travaux, etc. Donc, j'en reviens toujours à cette organisation à la bonne échelle. Il faut que les collectivités soient beaucoup mieux gérées, qu'elles soient plus grandes et qu'elles soient mieux gérées avec des vrais services techniques qui puissent commencer à faire les travaux, à organiser les travaux de remplacement des canalisations. Et dans ces conditions, l'agence de l'eau sera de toute façon plus à même à aider.
Pauline Servant voulait rajouter quelque chose et après j'aimerais revenir quand même à ce problème de gouvernance par rapport aux syndicats et aux regroupements éventuels. Pauline Servant.
Oui, merci. Comme on parlait de l'information à l'eau, sur les données sur l'eau, les données sur le CVM sont particulièrement problématiques. Parce qu'en fait, comme M. Durand l'a expliqué, la pollution au CVM, elle est très localisée et elle ne concerne pas tout l'ensemble de l'UDI, du réseau d'eau. Et pour cette raison, les données ne sont pas remontées. Et en fait, il n'y a qu'un quart des données sur le CVM, sur les dépassements de CVM qui sont remontées. Et les autres, en fait, pour ne pas alerter l'ensemble de l'UDI inutilement, on préfère ne alerter personne, en fait. Et du coup, pour réaliser notre carte sur le CVM, ça a été très problématique parce qu'on n'a pas accès à l'ensemble des informations. Et il y a un doctorant qui a fait un travail dessus qui s'appelle Gaspard Lemaire qui a demandé l'accès à ces données-là aux ARS qui lui ont été fournies. Et grâce aux données qu'il a récupérées, c'est le Média Vert qui a pu faire une carte plus complète. Et aussi, on va nous aussi faire une carte plus complète sur ça. Mais voilà, il y a vraiment un problème sur l'accès à l'information. Les gens qui ont été avertis très tardivement, il y a même des actions en justice qui sont en cours justement pour ce manque d'informations.
Mais sachant que l'Agence régionale de santé nous dit aussi qu'il y a des informations qui ne remontent pas. Donc même si vous fournissez l'information, elle va être de toute façon un peu diminuée. C'est des problèmes de budget pour si vous n'avez pas de retour par rapport à ça, parce qu'il faut faire aussi des échantillons.
Oui, après ça va être des choix des collectivités, donc c'est un jeu où il faut qu'on mette la pression auprès des collectivités, comme ce qui a été fait pour les pesticides avec les mises en demeure. Donc ça va être des choix. Et après ça va être, c'est vrai que la population pour la problématique CVM, la population qui est concernée est informée, mais tout le monde, comme ça a été très bien dit, on n'informe pas toute l'UDI pour pas qu'ils pensent que ah ben oui, je ne dois pas consommer l'eau potable, je ne dois pas consommer l'eau du réseau. S'ils n'ont pas été informés, si les personnes ne sont pas informées, c'est qu'ils peuvent consommer l'eau. Donc là, pour les CVM, ça a vraiment été ciblé, parce que des fois on est sur quelques familles seulement. On est en train de mettre en place, on va mettre en place sur le site de l'ARS Occitanie vraiment toutes les restrictions de consommation d'eau, tous les réseaux en Occitanie où on va avoir une restriction où il y a une restriction de consommation d'eau. Il faut savoir, ce n'est pas les CVM ou les pesticides qui sont les plus fréquentes, c'est les bactériologies. La bactériologie, on a des restrictions de consommation permanentes sur de nombreux territoires, notamment en zone de montagne, mais on les mettra toutes. Là où c'est le plus difficile, c'est vrai, c'est les CVM. Parce que les CVM, il faut vraiment qu'on adapte et qu'on dise bien là où il y a une restriction de consommation d'eau, là où ça dépasse les normes, et c'est vraiment très, très localisé. Mais on fera ça sur tous les paramètres, sur tout le territoire de l'Occitanie.
Une petite question que je voulais vous poser par rapport à la gouvernance. Donc, on a parlé de la feuille de route du gouvernement qui voulait identifier les captages sensibles. Et ensuite, les autres points, c'est sécuriser les captages menacés, bon, ce qui peut paraître quand même assez logique, et accompagner les collectivités, les agriculteurs. Qui fait ça, en fait ? C'est l'ARS, c'est l'Agence de l'eau avec les comités de bassin qui va aller voir un moment deux ou trois syndicats en disant peut-être que ça serait mieux si vous vous fédériez pour mutualiser, pour que ça soit plus... qui va faire la démarche, les agriculteurs? Est-ce que l'ARS a quelque chose à voir avec des industriels ou des agriculteurs? Ou est-ce que ça va être les équipes de l'agence de l'eau ou d'autres partenaires? Des fois, on a l'impression qu'il y a un gros paquebot, qu'il n'y a pas trop de capitaines, il y a plein de gens à bord qui sont de bonne volonté, mais on ne sait pas trop où ça va. Est-ce que vous pourriez éclaircir là?
C'est bon. Depuis la toute dernière loi qui transcrit la directive européenne de 2020, désormais, ce sont bien les distributeurs d'eau, c'est-à-dire les collectivités, qui ont la compétence pour la protection des captages. Donc, ils ont de fait cette compétence lorsqu'ils ont un captage sensible. C'est pour ça que la définition du captage sensible est importante. Les autres collectivités qui n'ont pas de captage sensible, ils peuvent aussi prendre cette compétence de protection par délibération, par exemple, ou dans leur statut. Mais donc, à partir du moment où c'est eux qui ont cette compétence, donc c'est eux qui doivent animer les territoires et c'est eux qui doivent protéger la ressource. Comme je l'ai dit, l'agence de l'eau, elle va seulement les accompagner. Par exemple, s'ils vont faire un plan d'action s'ils veulent monter un plan d'action, s'ils veulent connaître leurs ressources, pas en définissant l'aire d'alimentation du captage, par exemple. Toutes ces études-là, l'Agence de l'eau va les financer. Et on a même monté notre taux de financement à 70% sans aucune restriction. Mais c'est, une fois de plus, c'est la collectivité qui doit, qui a la responsabilité et qui a la compétence pour protéger sa ressource et travailler avec les acteurs du terrain. Voilà. Donc, une fois de plus, si la collectivité est trop petite, qu'elle n'a pas les moyens de mettre en place une structure de suivi ou de direction, etc., ça va être quand même très difficile pour eux de mener, de suivre des études, d'animer des territoires, etc.
Anna Cohen.
Merci. Oui, pour autant, la collectivité ne dispose pas de moyens contraignants dans sa boîte à outils. Donc, bien sûr, l'animation du territoire, le volontariat, les incitations, c'est très, très important. Mais dans les situations de blocage ou sur certains territoires où il y a un manque de volonté, où il y a un trop petit nombre de personnes qui s'engagent pour que ce soit vraiment impactant sur la qualité de la ressource, si le préfet de département ou si l'État ne soutient pas la collectivité, elle est un peu démunie. Et puis, finalement, c'est elle qui est responsable pénalement de délivrer l'eau conforme. Donc on arrive quand même dans des impasses où les collectivités sont un peu démunies si l'État n'est pas derrière.
Sur le même sujet, j'imagine.
Ah, je suis désolé, c'est le Gersois dans la zone la plus polluée du Gersois qui va venir. Moi, cet après-midi, il me rassure beaucoup quand même, parce que je trouve qu'on a été extrêmement négatif et pessimiste ce matin. Là, franchement, moi, je vais vous donner l'exemple de Lectour, puisque vous avez compris... Madame Fournier, je vais avoir besoin de vous. Vous avez compris que nous, on a un pépin ponctuel sur certainement une usine qui défaille. Si je me permets de vous dire que j'ai quand même alerté les élus de cette anomalie qu'au début, je pensais même analytique, puisque Madame Fournier nous a confirmé que la société civile n'était pas en capacité d'être expert d'un prélèvement d'eau transmis à un laboratoire COFRAC. Ce que j'ai trouvé... Enfin, moi, je pense à Fleur Breteau qui a pris la parole dans l'Assemblée nationale. Il y a un moment où la société civile, il ne va pas falloir l'oublier trop quand même, parce qu'à un moment, elle s'énerve. Et ce qui s'est passé à Lectour, ils m'ont répondu. Moi, je trouve, parce que c'est presque des gens qu'on connaît tous les jours, nos politiques. On est dans un tout petit coin, nous, où au milieu coule la rivière. Et pourquoi les filtres à charbon n'ont pas été changés depuis 2 ans dans l'usine de décontamination de l'eau à Lectour? C'est parce qu'il y avait de l'eau marron qui coulait au petit village de Marsolan à côté. Et ils ont fait, à leur niveau, j'espère qu'on va pouvoir creuser ça, un arbitrage. Ils ont changé les tuyaux. Ouais. Donc moi, je vais être positif, malgré l'extrême positivisme que vous avez exprimé à me fournir dans la situation dans laquelle on est. Donc moi, je suis rassuré, donc je vous propose que tous les deux, on organise une grande journée de l'eau à Lectour, où vous allez venir à mes côtés, on va collaborer tous les deux. Si vous voulez, j'offrirai le melon de Lectour, et puis vous offrirez un peu le budget pour l'occasion de la salle. Mais il faut vraiment... Moi, je vous ai tendu la main, en fait, ce matin. Je pense franchement, et une de vos collaboratrices l'a très bien compris quand on a discuté, il ne faut pas avoir peur de la société civile qui, d'un seul coup, se lève dans la salle et dit « Hey, les gars, on est 100% à boire de l'eau, d'accord ?» Il faut vraiment que vous nous écoutiez. Moi, j'ai la chance d'avoir un diplôme qui m'a amené une certaine crédibilité, qui a évité que je sois cloisonné en Khmer vert et qu'on dise bah, « Qu'est-ce qu'il fait, celui-là » D'accord ? J'ai eu cette chance et pourtant, je peux vous assurer que ça n'a pas été si simple. Donc moi, je suis sûr qu'avec M. Durand, on n'a pas eu le temps parce qu'on était trop pressé de se rencontrer encore ce midi, et on va aller se voir. J'ai alerté l'ARS, bien évidemment, il y a très longtemps. Les résultats, ils sont récents. Il faut laisser que chacun... Moi, quand je dose en mois d'avril, j'ai le résultat chez Yanesco au mois de juin, et je travaille. Et on a peut-être été très lents, nous aussi, la société civile. Mais en fait, maintenant, on attend plus une collaboration, une aide pour casser, effectivement, et là, vous aviez raison, le débat qui est tué par... Il y a ceux qui veulent plus de pesticides et il y a ceux qui ne veulent pas de normes. Je vous remercie sincèrement de continuer à croire en ce qu'on a dit.
Merci. Je vais vous donner la parole. Je vous la donne maintenant, puis je demanderai une précision.
Non, je vais faire très court. Je suis désolée si vous avez pris comme agression ou si j'étais maladroite dans mes propos. L'idée, c'était de dire que quand on fait des analyses, je considère que je suis aussi dans la, je me considère aussi dans la population civile. Je bois l'eau du robinet comme tout, enfin comme beaucoup, et j'ai confiance en notre système. Pour autant, quand je vois des gens faire des analyses, il y a tellement d'incertitudes sur le prélèvement, sur la façon de faire l'analyse et sur la façon de l'interpréter, qu'on ne peut pas faire des constats sur une seule analyse. C'était juste ça. Et qu'ensuite, cette analyse, il faut la mettre en perspective par rapport à la ressource qu'on est censé surveiller. C'était juste ça. Après, je ne critique pas et je ne dis pas que vos résultats sont faux, parce que c'est pas vrai. Il y a un vrai problème, et ça, je le constate avec vous. Par contre, c'est dans la façon de faire qu'il y a sans doute des progrès à trouver, et ça, je peux vous l'expliquer, et on ne le fera pas ici, mais c'est pour ça qu'il y a des hydrogéologues, des hydrologues, des pharmaciens, enfin, il y a chacun ses compétences, et qu'il ne faut sans doute pas tout mélanger, mais pour autant, je partage quand même le constat.
Il y avait une demande de prise de parole, oui.
Alors, c'est de moi ?
Oui.
Donc, Claude Touchefeu, de l'association Au Secours 31. On est nombreux dans la salle. Moi, j'ai deux remarques. D'abord, je veux soutenir absolument la position de, notamment exprimée par Génération Future sur la transparence, la communication des informations, parce que nous, on est une association d'usagers. Évidemment, on est souvent interpellés et on n'a pas souvent les réponses qu'il faut. Et puis, c'est un problème de société. On voit bien que la question, ce n'est pas qu'une question technique. Et quand l'ARS dit « ne vous inquiétez pas, excusez-moi monsieur, mais je vais vous reprendre un peu au mot, s'il y a un problème, vous serez averti », ça ne règle absolument pas le problème. Parce qu'en fait, on voit bien que cette question de la qualité de l'eau, elle touche beaucoup plus que simplement de savoir si aujourd'hui je dois boire avec inquiétude ou pas. C'est aujourd'hui comment la société civile, elle peut prendre en compte la nature des difficultés et intervenir dans ce débat-là, qui est un vrai débat, pas technique, c'est un débat de choix de société, et sur la question des pesticides, et du coup sur la qualité de l'eau. Et du coup, avoir des informations lisibles, compréhensibles, problématisées, je ne sais pas comment vous utilisez ce mot-là, je crois que c'est aujourd'hui, véritablement aujourd'hui, devenu indispensable pour qu'on ne soit pas dans des caricatures de débats, comme vous appelez à ne pas être dans la caricature des débats, parce que forcément, ce sont des questions qui ne sont pas simplement des questions de technique, de comment on va faire pour avoir une eau plus potable. Et alors, à ce propos, mon deuxième propos est de dire que ce n'est pas qu'une question de grosseur. Alors, on est, nous, moi, je suis sur Toulouse Métropole, on agit sur la métropole, donc ça, c'est plutôt une grosse échelle. Mais quand on parle de protection des zones de captage, alors c'est quoi la responsabilité d'une métropole comme Toulouse? Elle a plutôt tendance à dire, moi ma responsabilité, c'est simplement à partir du moment où l'eau brute arrive, que j'en fasse une eau potable. Du coup, on va s'orienter plutôt simplement sur les réponses techniques de comment on rend une eau polluée potable. Alors que la vraie question, elle est d'abord de comment on fait en sorte que l'eau qui arrive ne soit pas polluée. Et c'est quoi la responsabilité, là, de Toulouse Métropole par rapport à ça? On a plutôt, jusqu'à présent, une difficulté à faire entendre qu'il y a bien une responsabilité de la collectivité métropole sur la nature, sur le fait qu'elle doit aussi intervenir sur comment elle assure, en tant que collectivité, que l'eau qui arrive chez elle ne soit pas polluée. Et je pense que c'est une question très importante sur les responsabilités qui sont effectivement un problème de... C'est qui pilote tout ça.
Qui fait quoi? Oui, c'est exactement la question que je voulais poser par rapport à, pour prolonger, hein, dans la notion de captage sensible, et on en a parlé dans le GERS aussi, avec un équipement défaillant. Qu'est-ce que c'est qu'un captage sensible? Est-ce que c'est un captage où l'eau arrive et où elle est polluée? Ou est-ce que c'est un captage où elle repart polluée malgré les équipements ou parce qu'il y a des équipements défaillants? Quelle est la notion? Parce qu'on peut très bien avoir une eau très polluée qui arrive, avec à Toulouse Métropole, par exemple, des équipements qui coûtent extrêmement cher, qui sont très efficaces, et puis au robinet, elle est limpide. Mais là, on va dire, c'est pas un captage sensible, regardez, votre eau, elle est parfaite. Quelle est la notion, là? Parce qu'effectivement, si on s'intéresse pas à l'amont, et que parce qu'on a des gros moyens, Juste à la fin, on offre une eau de bonne qualité qui vient de beaucoup plus loin. On va parler de l'Admezan pour le Gers. Quelle est la définition du captage sensible? Je pose la question à tous les quatre, si vous le savez, parce que bon, c'est une feuille de route et on attend la fin de l'année avec impatience, je crois.
Non, les captages sensibles, c'est vraiment sur l'eau qui arrive au captage, c'est avant le traitement. C'est ce qu'on appelle l'eau brute, c'est-à-dire l'eau qu'on capte avant le traitement. Donc c'est là-dessus qu'on va mesurer les paramètres et déterminer s'il est sensible ou pas. On peut avoir certains captages sensibles qui vont même être définis sans être trop pollués, entre guillemets, mais qui sont vraiment vulnérables et sur lesquels il faut faire vraiment très attention. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas prendre forcément tous les plus pollués, mais ceux qui sont pollués, déjà, ils seront sensibles. Et ceux qui ont des vulnérabilités à être pollués, qu'il faut bien suivre, ils seront aussi pris en compte. Donc, c'est vraiment sur l'eau brute, hein, pour répondre à votre question.
Et du coup, pour répondre à madame, pour Toulouse Métropole, vous travaillez comment avec Toulouse Métropole dans le cadre des schémas de... Est-ce que Toulouse Métropole a une responsabilité qui va un peu au-delà de la limite de Toulouse Métropole?
Non, mais je pense que madame a très bien exposé le problème. Et je vous le disais, justement, depuis la toute récente loi qui applique la directive, qui transcrit la directive de l'Union européenne, on essaye vraiment que les collectivités aient cette responsabilité sur l'amont, sur la protection de la ressource en amont. Mais comme ce sont les collectivités qui sont responsables, elles font ce qu'elles veulent ou ce qu'elles peuvent. Quand elles sont captage sensible, elles ont l'obligation. Là, c'est obligé. Sur des cas comme Toulouse Métropole, il faut arriver à les convaincre. Alors, une fois de plus, à l'Agence de l'eau, nous, on incite, on a seulement des capacités d'incitation. On a
y compris financières un peu, des fois, je crois.
Et Toulouse Métropole travaille de plus en plus sur le grand cycle, sur le milieu naturel amont. Ils travaillent de plus en plus, mais il faut les convaincre. Ils n'en font sûrement pas assez et c'est très récent. Et après, ça va dépendre de toutes ces collectivités qui, comme je vous l'ai dit, sont très, très disparates sur le bassin Adour-Garonne. Il y en a des petites, des grandes, certaines sont motivées, certaines ne veulent rien faire. On a tous les cas. Et voilà, donc elles ont effectivement maintenant cette responsabilité de travailler en amont. Et il faudra que ce soit des pratiques qui augmentent de plus en plus. Et l'Agence de l'eau est là pour les financer s'ils veulent bien travailler.
Pour l'Agence régionale de santé, est-ce que vous savez combien il y a de captages qui ne fonctionne pas bien pour des problèmes matériels ou d'argent? C'est-à-dire qu'il y a un équipement qui vaudrait 300 000 euros, qui pourrait pallier le problème de pollution, mais la collectivité, c'est une petite collectivité, et ils ne peuvent pas faire l'investissement. Et ça reste comme ça, avec des seuils qui flirtent ou qui sont au-dessus.
Alors, il y a plusieurs possibilités. En fait, c'est vrai que là, on est dans un cas particulier où c'est au niveau de la commune de Lectour. Ils ont les équipements. Ils ont la station de traitement, ils ne veulent pas renouveler, je crois qu'il y a des difficultés pour renouveler le charbon actif. C'est bien ça, mais on en discutera en effet. Et c'est des choix qui sont faits, parce que les charbons actifs, ça coûte cher, et des choix qui sont faits de ne pas renouveler le charbon actif tant qu'il n'est pas saturé et visiblement au-delà, puisque les analyses que vous avez faites, elles montrent que l'eau, elle est non conforme au-delà. Ce n'est pas la majorité des cas. On a des cas comme ça, en effet, et ce n'est pas tolérable. On a des cas comme ça. Et on a des cas où on a une collectivité qui n'a pas les financements pour mettre en place la station de traitement. Parce qu'il y a les deux parties. Il y a d'abord le financement et après, il y a l'exploitation. Donc, pour le premier cas, c'est l'exploitation. Et sinon, il y a déjà aussi de financer la mise en place d'une station de traitement de pesticides qui va coûter très cher. Il faut faire les bons choix de filtres à charbon actif en fonction des bonnes molécules. Demain, en fonction des PFAS. C'est ce qu'on souhaite, nous, on souhaite. Il y a ces deux volets. Le volet d'abord traitement, pour nous c'est le plus urgent, c'est curatif, pour que le plus rapidement possible la population ait accès à une eau conforme aux normes. Et le volet préventif qui est aussi, donc on travaille en lien avec l'Agence de l'eau là-dessus, c'est les deux volets obligatoires, volet préventif, parce que ça ne suffit pas. Ce qu'on veut, c'est que l'eau elle soit améliorée au niveau de la ressource. Mais ça va être long. La mise en place d'une station de traitement, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est plus rapide. Améliorer la qualité de la ressource, comme ça a été dit, on retrouve encore des métabolites de l'atrazine, qui est interdit depuis 2003. 20 ans après, on en retrouve encore dans l'eau potable. Donc on sait que ça va être long. Il faut déjà réussir à changer les pratiques. Et une fois que les pratiques auront changé, il faut que le milieu naturel, il supprime ces molécules. Donc on voit que ce sont des choses qui sont très, très, très longues.
Madame la Présidente.
Oui, je continue sur ce sujet-là. Quand un puits n'est plus aux normes, on peut avoir une consommation d'eau dérogatoire par arrêté préfectoral. Et au bout d'un certain temps, il faut quand même que la collectivité fasse quelque chose. Eh bien, les collectivités vont attendre un certain temps. Et puis, on va voir arriver tout simplement donc mettre en place un PAT, un plan d'action territorial. Hein, il y en a dans un certain nombre de territoires. Et puis, à l'heure actuelle, sous couvert du réchauffement climatique, il y a une vague d'interconnexion des différents puits, en fait, et donc qui est tout à fait louable dans la mesure où ça sécurise en termes de quantité, et ça vient du coup rediluer des puits qui étaient quand même critiques et qui auraient mérité de faire un PAT, et du coup ce PAT ne s'impose plus. Pour autant, ça ne change rien à ce qu'on devrait mettre en place pour améliorer la situation. Donc dans les puits sensibles et les captages sensibles, est-ce qu'il y a eu un certain nombre qui ont été arrêtés du coup en termes de projets, de plans d'action territoriaux? Parce que c'est un patrimoine malgré tout ces puits-là. On ne sait pas, pour X raisons, on pourrait avoir besoin d'y revenir. Or, on n'a rien mis en place du coup. Et monsieur Yannick Durand, ça doit vous rappeler quelque chose parce que c'est ce qui s'est passé au sein. Rien n'a été fait et donc... On a interconnecté, ça a coûté près d'1 million d'euros à la collectivité. Et en même temps, on n'a pas fait de travail, comme Odyssée nous a parlé, par exemple, où il n'y a pas eu de travail en amont. Donc ça, c'est quand même pour l'avenir inquiétant, parce que là où il devrait y avoir un vrai travail, eh bien, il ne se fait pas du fait de l'interconnexion.
Sur les puits, qui veut répondre? Pauline Servant, levez la main, mais peut-être juste après.
Juste, oui, c'est vrai que c'est un... Sur Rossan, je connais bien le sujet puisque j'étais dans le 65 à ce moment-là. Malheureusement, c'est réglementaire, c'est un choix de la collectivité. La collectivité aujourd'hui a le choix de choisir comment elle alimente sa collectivité en eau. Son choix, elle a le choix d'abandonner un captage et de se dire ben non, moi j'ai plutôt. C'est des choix stratégiques, des choix qui sont décidés. C'est pas l'État qui vient et qui va lui indiquer vous devez faire ceci, vous devez garder votre captage et investir et mettre en place ces systèmes-là, où vous devez... Ce n'est pas aussi directif. C'est vrai que c'est à la collectivité, à l'élu, de choisir avec son conseil municipal ou alors au syndicat, celui qui a pris la compétence eau potable, de choisir quel est le meilleur choix, quel est le choix qu'il souhaite mettre en place pour la collectivité, pour les abonnés. C'est de sa responsabilité. Nous, on va l'accompagner. On va lui dire, si vous faites ça, vous devez faire ceci, ceci, cela. Si votre choix, c'est plutôt ça, c'est d'abandonner le captage, il faut vous raccorder. Dans ces cas-là, l'eau, elle doit être conforme aux normes pour la population qui va être alimentée. Et c'est vrai qu'il y a des collectivités qui font le choix d'abandonner des captages, qui préfèrent se raccorder à d'autres ressources, des choix stratégiques, des choix économiques, des choix qui leur appartiennent. Et c'est de leur responsabilité. Là, c'est vrai qu'on n'est pas, là pour les obliger à faire tel ou tel choix. Nous, on leur accompagne, on leur dit leurs obligations et les conséquences de leurs choix.
Pauline Serrand pour Génération Future, qui voulait rajouter un petit mot. Ensuite, on donnera la parole à monsieur.
Oui, merci de souligner ce point qui est vraiment fondamental des dérogations, parce que c'est un vrai problème. Pour repréciser, en fait, quand il y a des dépassements de limites de qualité, pour que le producteur d'eau potable puisse... continuer à distribuer l'eau, même en cas de dépassement, il faut qu'il obtienne une dérogation, une première dérogation de 3 ans, qui est renouvelable une fois, et donc c'est au maximum 6 ans. Et c'est dans le rapport, le fameux rapport dont j'arrête pas de vous parler, des 3 inspections générales, mentionnait ce problème, et il parlait de même d'abus de dérogation, en fait, et il disait que même au bout de la fin de période dérogatoire, il n'y a rien qui s'était passé, il n'y avait aucune mesure curative ou même préventive qui avait été prise. Et donc c'est vraiment un problème qui semble systémique d'après ce rapport. Et juste un point sur les actions en amont. On parle beaucoup d'agir en amont pour prévenir la pollution. Et moi j'aimerais qu'on aille encore plus loin, vraiment au tout début du problème en amont, parce que les vrais responsables de ça, c'est les firmes agrochimiques qui autorisent, qui commercialisent ces substances. Je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est pas les agriculteurs qui sont les responsables. Les agriculteurs, ils sont pris au piège d'un système dont ils sont complètement dépendants. C'est vraiment l'agrochimie et le système qui fait que ces substances sont autorisées, quoi. Et donc moi j'aimerais qu'on parle plus de ce problème et qu'on agisse vraiment en amont, c'est-à-dire ne pas autoriser des substances si elles sont dangereuses et si elles polluent les eaux souterraines, quoi. Je pense que...
Alors forcément, ça veut dire qu'on monte d'un cran et donc je pense qu'on monte à l'Union européenne. Est-ce que vous avez des actions ? Alors c'est plus compliqué parce que j'imagine qu'en plus, c'est bien au niveau français, mais c'est quand même bien de fédérer aussi plusieurs pays. Il y a des actions qui sont menées par rapport à ça ?
C'est extrêmement compliqué. Le problème de cette réglementation, c'est qu'elle est, en théorie, elle est assez protectrice parce que le règlement dit qu'une substance ne peut pas être autorisée si elle pollue l'eau souterraine. Mais le problème, c'est la façon dont elle est appliquée. Et pour changer ça, c'est extrêmement compliqué. On est obligé d'agir substance par substance. Au niveau juridique, ça prend des années, c'est très incertain, ça coûte très cher en avocat. Les associations n'ont pas forcément les moyens. Donc, mais pour moi, c'est vraiment là qu'il faut agir. Et c'est ça qui sera vraiment efficace et qui coûtera beaucoup moins cher à la société au final, quoi.
Merci, ils ont été très patients. Deux messieurs qui veulent prendre la parole et je ne sais pas oublier, il y a beaucoup de monde qui veut prendre la parole.
Oui, le sujet du débat ici, c'est surtout donc les perspectives par rapport à la préservation de la qualité de l'eau potable. On a vu tout ce qui se passait, l'enjeu qu'il y a à intervenir bien en amont, et y compris jusqu'à ceux qui produisent ces produits issus de l'industrie du pétrole. Moi, je voulais proposer une réflexion peut-être un peu plus globale, où on regarde d'un petit peu plus loin, et on se dit que, compte tenu des moyens mis en œuvre actuellement pour renverser la tendance, et on a vu qu'on était dans les 0,3% d'intervention, par exemple, pour ce qui concerne les enjeux TFA, pollution émergente, 0,3% du territoire sur lequel on va faire des petites expérimentations pour voir ce qui se passe. Si on regarde le temps qu'il va falloir pour arriver à une politique efficace dans ce domaine pour préserver l'alimentation, ne serait-ce que l'eau brute déjà, et quand on voit que les traitements de l'eau potable globalement sur notre territoire traitent une grande partie de la pollution, mais ne traitent pas, pour ceux qui ne sont pas équipés de systèmes de traitement au charbon actif, les PFAS, quand on sait que les seuls systèmes qui permettraient de traiter ces pollutions avec les métabolites et le TFA, ce seraient des systèmes d'osmose inversée qui nécessitent des consommations énergétiques énormes et qui sont des coûts très importants aussi à l'installation sur l'ensemble des stations. Je rappelle que Toulouse Métropole a fait le choix d'installer partout sur ces stations des systèmes de charbon actif de manière uniforme, mais n'a pas fait le pas d'aller vers des systèmes à membrane, osmose inverse, etc. Donc, inutile de dire que sur l'essentiel du territoire rural, etc., ça se fera encore moins. Donc, il faut peut-être, à un moment donné, changer de paradigme et se dire qu'on n'est plus capable de produire de l'eau potable. Je fais la provocation comme ça. On n'est plus capable parce que soit on trafique effectivement les seuils par rapport aux différents composants polluants, soit, à un moment donné, on joue le jeu de la vérité, on reconnaît tous les risques qu'il y a derrière ça et on met en place des mesures pour protéger la santé des populations. Et dans ce cadre-là, je pense que, je disais, on n'est plus capable de produire de l'eau potable parce qu'elle ne répondra pas aux normes nulle part, pour l'essentiel sans doute. Et peut-être qu'il va falloir se dire qu'on est capable de produire de l'eau hygiénisée, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour se doucher, pour faire l'essentiel des activités qu'on a dans la vie courante et qui consomment beaucoup d'eau, puisqu'on est entre 180 et 250 litres par jour. Et peut-être que la bonne question, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une responsabilité publique, un service public qui produise une eau potable, qui lui va faire intervenir des technologies très pointues, mais non pas sur l'ensemble du volume d'eau potable qu'on produit et qu'on consomme, mais sur la faible partie qui va servir à boire l'eau de consommation, à préparer l'alimentation et non pas à laver la vaisselle. Donc, à partir de là, c'est peut-être une autre approche et ça va de pair avec tout un tas d'autres choses sur les économies d'eau, sur le fait de développer aussi les toilettes sèches, sur tout un tas de choses. Il y a tout un tas de dispositifs, c'est une réflexion globale et je n'ai pas l'impression qu'elle est menée à nos niveaux, dans les agences de l'eau, encore moins au niveau supérieur. qui impulse ces réflexions de fond, parce qu'on est dans une situation où il va y avoir une multiplication des incidents, il va y avoir une multiplication des crises, et on ne va pas ramener les unités mobiles de Veolia dans les différents quartiers à chaque fois pour intervenir et faire du traitement au charbon actif, inefficace pour certaines pollutions.
Merci, je garde l'idée de l'eau hygiénisée. Je vais faire parler votre voisin derrière qui, me semble-t-il, avait levé la main.
Oui, alors juste un petit témoignage et puis une question. Donc un témoignage, moi j'étais technicien à Rivière et puis récemment j'étais à l'agence de l'eau. Donc je voulais revenir sur la question de l'implication des acteurs locaux. Une question qui a été posée par notre agricultrice gersoise tout à l'heure, qui je crois a disparu. Elle est là-bas, tant mieux. Voilà, très bien. Voilà, moi je pense que la participation locale des agriculteurs, elle est compliquée à mettre en œuvre sur les territoires. Sur le Gers, il y a 7 syndicats mixtes de rivières qui mettent en œuvre des contrats de rivière, des sages, des PAT, etc., avec des équipes techniques, des élus. Mais si on prend la globalité de tous les syndicats, les services publics de l'eau et de l'assainissement, on est à plus de 150 structures. Donc vous voyez un petit peu l'enjeu qu'il y a à mener cette animation locale en rapport aux moyens humains et financiers qui sont mis par les collectivités, par l'agence de l'eau. Et donc, voilà, il faut cibler et les retours d'expérience que j'ai pu avoir pour avoir travaillé dans l'Aveyron et sur la Charente, c'est qu'il faut du temps pour construire des programmes d'action avec les agriculteurs, partager un diagnostic des enjeux et faire valider les pistes d'action par les agriculteurs eux-mêmes, ce qui n'est pas toujours fait. Et du coup, là, on arrive à des bons résultats, on arrive à enclencher une dynamique d'adaptation de pratiques agricoles en faveur de la préservation de l'eau. J'emploierai pas le terme de pratique agroécologique parce que ça peut être un mot tabou dans les territoires ruraux. Mais voilà, force est de constater que les PSE et les démarches locales peuvent avoir beaucoup de résultats. Simplement, il faut du temps, de l'implication et un rapport de confiance qui s'est un petit peu perdu entre le monde agricole, les institutions et les citoyens. Ma question, juste pour revenir sur les PFAS, une question à l'attention de monsieur de l'ARS. Moi, je regrette l'inertie des services de l'État dans certaines situations. Au moment où on a parlé des PFAS et avant qu'il y ait des rapports de l'État annonçant la doctrine et la stratégie, je prendrai la situation d'Arkena dans le Rhône, où il a fallu attendre des mois et des mois avant de reconnaître le problème, en attendant de trouver d'autres possibilités aux 200 000 abonnés qui ont consommé de l'eau potable. La seule proposition de l'État, de la préfecture, des services de l'État, ça a été de dire il va falloir que les collectivités trouvent d'autres moyens de substitution de production d'eau potable. Et là, on retombe sur les aspects financiers dont vous parliez, l'incapacité à répondre de façon réactive et efficace à produire de l'eau potable pour les citoyens. Donc voilà, l'État, progressivement, on voit bien au niveau national, son désengagement. Là, c'est une question, il me semble, d'une compétence régalienne qu'elle a laissée tomber.
Est-ce que, Yannick Durand, pour l'ARS, Occitanie, on parlait d'Arkena.
C'est difficile pour moi de répondre à la place des collègues qui sont pas là. Je connais un petit peu le dossier. Après, je comprends la difficulté. J'imagine que si c'était la même chose sur Toulouse, du jour au lendemain, les ressources, elles sont déclarées non conformes aux normes par rapport au PFAS. Il n'y a pas de solution de traitement. Il n'y a pas de quelle solution mettre en œuvre. J'imagine la complexité et donc la difficulté de retrouver d'autres ressources pour alimenter toute l'agglomération toulousaine. C'est vrai que c'est quelque chose de compliqué, de complexe. Comment on aurait réagi, je ne peux pas vous dire, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très complexe et on espère que c'est des choses qui n'arriveront pas. Et le mieux, c'est vraiment d'informer, de limiter, c'est dans le cadre de ceci qu'il y a la loi sur les PFAS, de réglementer, de limiter tous les usages des PFAS dès à présent, d'essayer de les supprimer à la ressource, au niveau de la production. L'usine de Solvay sur le TFA, elle était fermée, elle ne produit plus de TFA. C'est pas pour ça qu'on n'en a pas, on l'importe, hein. On sait bien, on n'est pas naïf, hein. On sait bien, c'est comme pour les pesticides, on va les importer. Mais bon, voilà, donc c'est des choses qui sont complexes aujourd'hui.
Sur le Gers, est-ce qu'il est possible d'imaginer une sorte de plan de bataille, de mobilisation générale, un petit peu à l'image de ce qui s'est fait en Charente-Maritime, pour dire, on essaie de structurer, on essaie de mettre le paquet, alors je ne sais pas si c'est en plan triennal, quinquennal, mais en disant, parce qu'on a vu les efforts qu'il fallait, et sur le diaporama, il y avait les bottes, pour dire, hein, faut prendre les bottes et puis il faut aller arpenter le territoire. Est-ce que c'est imaginable de dire, à l'échelle de l'Occitanie, c'est quand même une priorité, quoi. C'est un peu une urgence, on a tourné un peu autour de ça toute la journée. Est-ce que c'est possible d'imaginer une mobilisation importante, ARS, Agence de l'eau, d'autres acteurs?
Mais... C'est ce qui a été un peu présenté par mes collègues. Il y a effectivement une action, une entente qui s'est faite sur tout le territoire du Gers pour commencer les actions. Alors, c'est que le début, vous ne l'avez peut-être pas encore vu sur le terrain, mais ça s'organise, comme on vous l'a dit, les gouvernances, les démarches territoriales, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. On a entendu aussi... vos messages par rapport à la participation des citoyens dans la démarche, etc. Donc, voilà, ça prend du temps, mais c'est commencé.
Anna Cohen, vous voulez dire un petit mot, elle va peut-être vous le rappeler encore pour la participation des citoyens.
Oui, je pense qu'on peut et on doit, chacun de nous, pousser pour une réglementation nationale, puisque... On a des territoires qui s'engagent, d'autres pas du tout. On a une grosse différence, une grosse hétérogénéité entre les territoires. Donc il faudrait que, aussi au national, on arrive à pousser pour une réglementation qui protège les captages des pollutions, parce que sinon, voilà, on arrive à tous ces constats et on s'en sortira pas. Je voulais aussi parler peut-être de la gouvernance des chambres d'agriculture, qui me semble aussi être un point bloquant pour le fait qu'en fait les agriculteurs aujourd'hui on a du mal à embarquer certains parce que voilà on a des logiques de gouvernance de chambres qui voilà qui touchent un certain nombre d'aides et qui derrière ne mettent pas toujours tout en œuvre pour la protection de l'eau. Donc là il y a aussi une évolution pour inclure plus d'organismes dans la gestion des chambres d'agriculture, des organismes qui mettent déjà en œuvre des solutions techniques, mais aussi d'accompagnement psychologique, social, économique. Donc là, on a un vrai levier aussi pour embarquer le monde agricole, je pense. Et puis, on parlait tout à l'heure de l'eau, monsieur parlait des normes vis-à-vis de l'eau. La meilleure façon aussi, c'est l'alimentation, c'est aussi de faire des choix alimentaires, parce qu'on est très exposé à des concentrations beaucoup plus importantes dans ce qu'on mange que dans l'eau qu'on boit ou dans l'air qu'on respire, par exemple. Donc déjà, par les choix alimentaires qu'on fait, on protège aussi la qualité de l'eau.
Merci. La piste de monsieur qui a parlé de l'eau potable pour se doucher, c'est pas forcément bête quand même de différencier comme il l'a fait. Monsieur.
Oui, merci. Lucien Sanchez, il se trouve que je représente mon association, au Secours 31, à la CCSPL de la Métropole, Commission consultative des services publics locaux. Et donc je réagis par rapport à deux remarques. La première, puisque c'est évoqué, c'est la question des dérogations. Il y a une dérogation qui n'en est plus une maintenant, c'est celle relative à la température de l'eau. Pour être plus précis, le rapport du délégataire Veolia 2023 signalait à peu près... mémoire entre 15 et 20 dépassements de température de la limite de 25 degrés. Je viens de lire le rapport du délégataire Veolia 2024 et là, tous les relèvements de température dépassent 25 degrés et ont atteint à Blagnac 31 degrés. Et il n'est plus besoin, c'est un décret national aujourd'hui, de demander des dérogations. Voilà, on en est rendu sur une situation qui n'est pas sans conséquence sur la biodiversité. Elle ne fait pas besoin de faire un dessin sans parler de goldfish, etc., de rejet des eaux. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, et là, je suis pas en désaccord avec ce qu'a dit le représentant de l'agence d'Eau-Garonne, mais quand vous dites que vous essayez de sensibiliser la métropole au fait de s'intéresser à ce qui se passe en amont du point de vue et pas simplement les eaux brutes, je peux vous assurer que M. Trottmann, qui est dans la métropole quand même celui qui gère les affaires relatives à l'eau, un CCSPL, quand il lui fait cette remarque, nous dit que ce n'est pas son problème, carrément. il s'en tape complètement. Et quel est son argument? C'est de dire que les usagers que nous sommes versent déjà des redevances à l'agence Adour-Garonne, et donc la métropole paie déjà d'une certaine manière, par le biais des redevances à l'agence Adour-Garonne, et donc il n'a pas à intervenir sur ce trait-là. Textuellement, je peux vous donner même le procès-verbal de la CCSP là-dessus. Et pourtant, il y a des municipalités qui ont fait des initiatives dans ce sens qui sont tout à fait positives à Paris, à Rennes, et dernièrement, je l'ai vu à Besançon, et comme par hasard, des municipalités qui sont en régie. Voilà, merci.
Vous voulez rebondir pour l'agence de l'eau? C'est un sujet qui n'est pas évident. Sinon, il y a l'autre sujet qu'on peut aborder qui est le réchauffement climatique. On n'en a pas trop parlé parce que c'est pour cumuler un peu les difficultés. On l'a gardé pour la fin.
Oui, mais je ne peux qu'acquiescer. Oui, en effet, le paramètre température était un paramètre qui nécessitait une dérogation. Alors, température de l'eau brute qui est utilisée pour faire de la production d'eau potable. Il y avait c'était une référence de qualité 25 degrés. Il ne devait pas être dépassé en eau brute pour pouvoir faire de l'eau potable. Ça a été supprimé. Alors, ce n'est pas le choix des ARS, et ça a été au niveau national. Nous, il y avait des dérogations qui étaient mises en œuvre. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de mettre en place ces dérogations. Ça, qu'est-ce que ça change? Bon, il y avait des dérogations. Maintenant, il n'y a plus besoin de faire des dérogations. Par rapport à... On est en lien avec le réchauffement climatique. Et c'est vrai, les températures des eaux augmentent. On voit qu'on a de plus en plus de moustiques. On a beaucoup en plus de sécheresses. On s'adapte au réchauffement climatique. Ce choix, pourquoi il a été fait, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire ces dérogations et que les traitements qui sont mis en œuvre sont suffisamment performants, même au-delà de 25 degrés, pour garantir une qualité d'eau. Et là, c'était par rapport à la problématique bactériologique, notamment. On ne voulait pas des eaux trop chaudes pour limiter le risque bactériologique au niveau des stations de traitement.
Est-ce que l'Agence de l'eau fait de la prospective et par rapport à la ressource en eau? Est-ce qu'on peut avoir très, très rapidement des problèmes au niveau des normes par rapport à une dilution moindre du fait des étiages? On en a parlé ce matin. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines années à des dépassements du fait de la faiblesse de la ressource, des dépassements de plus en plus fréquents? Et de l'eau non potable, du coup. Rassurez-nous. Mais...
En fait, les prévisions, entre guillemets, sur les débits hydrologiques ou les rechargements de nappes en raison du changement climatique sont quand même très difficiles à faire. Alors, on a des fourchettes, on a des prévisions qui peuvent être très différentes. Donc, C'est pas évident à prévoir et donc ni à faire beaucoup de recherches dessus.
On va pas vers du mieux a priori quand même. On peut imaginer qu'on va pas vers du mieux.
Voilà, j'y venais. Vous avez tout à fait raison sur le bassin Adour-Garonne. De façon générale, on s'attend quand même de façon très globale à des diminutions de débit. Néanmoins, pour l'eau potable, on n'est pas quand même trop inquiet que ça engendre trop de problèmes de qualité. On n'en est pas encore là. Ça sera plutôt au niveau quantité que ça va être problématique avec de plus en plus de collectivités qui n'auront plus d'eau l'été au robinet, mais en termes de quantité tout simplement. Et il faudra...
Donc elles n'auront pas d'eau, mais elle sera propre, quoi.
Ouais, voilà,
elle sera... Okay. Ils boiront une non-eau propre.
Par rapport à ça, j'ai une question. Depuis que je suis dans le Gers, donc docteur Balanguien sur les tours, moi j'ai entendu parler du lac de Charlas. Lac de Charlas qui est en amont de Toulouse, entre Saint-Gaudens et Muret, qui n'existe pas, mais il a été quand même à l'ordre du jour. Or, ce serait un moyen d'améliorer l'étiage quand même de la Garonne et d'assurer une réserve en eau un peu plus pérenne pour l'été.
Alors là, alors, vous hiver, ouvrez un truc terrible.
Alors l'eau tombe quand même, et l'eau qui part après à l'océan est une eau perdue. Alors effectivement, elle s'infiltre, mais on a quand même un apport d'eau, et en particulier des tempêtes. Donc on peut imaginer que ces lacs se remplissent en hiver, au printemps, et éventuellement en automne, et donnent en été quand il y a besoin d'eau.
On peut l'imaginer.
Alors, FNE. Qui décide de répondre.
Oui, je veux bien répondre parce qu'en fait, ce lac de Charlas, c'est un peu l'Arlésienne, c'était 100 millions de mètres cubes. C'est un très, très, très vieux projet. Les collectivités ont délibéré contre. Ça a été renouvelé récemment. L'agence de l'eau peut me contredire. Donc pour ce grand barrage, là vous rentrez dans la problématique, on va dire, de la gestion quantitative. Je voudrais ramener un point très précis, c'est qu'aujourd'hui, si nos rivières sont si en péril et si elles sont si dégradées, c'est principalement parce qu'il y a des ruptures de continuité écologique et des effets cumulés vraiment délétères de tous les barrages qu'on a sur tous nos systèmes. Aujourd'hui, la Haute-Garonne a validé, contre l'avis de toutes nos associations, y compris le département, dans le cadre du PTGA, de dévier un cours d'eau pour remplir le lac de Montbel pour pouvoir à nouveau faire de l'irrigation et du soutien d'étiage. Et donc, on continue à faire de la dénaturation des cours d'eau. On prône d'un côté les solutions fondées sur la nature pour remettre de l'artificialisation quelque part. Aujourd'hui, ce n'est pas la solution de faire des barrages, et celui-ci poserait d'énormes problèmes par sa taille, par un site qui aujourd'hui ne pourrait pas être préempté. Enfin, ça poserait vraiment des problèmes énormes. Et c'est une... on peut avoir des avis différents. Tous les agriculteurs demandent évidemment toujours plus d'irrigation et donc toujours plus de barrages. Donc certes, aujourd'hui, les barrages de montagne qui ont été construits dans les années 1910-1950 nous servent à faire de l'irrigation, du soutien d'étiage. Pour autant, il faut bien prendre en compte deux choses. C'est que c'est extrêmement pénalisant pour l'ensemble des bassins versants. Vous pouvez compter qu'il y aurait une transformation énorme sur des terres, sur des ruisseaux, sur beaucoup d'activités, d'une part. Et d'autre part, ça pourra que dégrader la qualité de l'eau en aval. Les barrages, classiquement, n'améliorent pas la qualité des eaux, et voire même dégrade tout ce qui est piscicole derrière. Donc, c'est pas si simple que tout ça. Ensuite de ça, certes, il pleut en hiver, et il y en a qui parlent aussi d'amortir les crues par les barrages, mais c'est une hérésie totale, puisque la période où nous avons de très fortes pluies actuellement, si on garde les barrages vides, ils ne serviront pas pour l'étiage. Donc, c'est pas si simple que ça. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes, donc je vais donner la parole à ceux qui levaient la main. Monsieur.
Oui, je reviens un peu sur la protection des captages. On est dans un modèle incitatif dont on a vu la faible efficacité. Posais la question, l'État est à même souvent d'imposer, on l'a vu pour les collectivités, par exemple l'accessibilité dans les bâtiments publics, etc. Il y a un calendrier, 5 ans, 10 ans, et après il y a une obligation de résultat. Je voulais savoir si au niveau européen, concernant la protection des captages, est-ce qu'on est sur ce modèle incitatif uniquement, ou sur des modèles beaucoup plus autoritaires pour la protection quand même d'une ressource qui est vitale?
Merci. Je garde la question, elle est notée. Monsieur.
Oui, j'aurais voulu intervenir juste après la personne derrière moi, parce que ça concerne ce sujet-là. Il est certain que la solution la plus raisonnable, c'est d'arrêter de polluer. Mais notre société, notre système, il n'est pas raisonnable, ni économiquement, ni politiquement. Donc, dans la situation actuelle, il y a trois solutions. Ce dont parlait la personne, c'est soit on va traiter par des solutions techniques de plus en plus chères en amont de l'eau potable dont 90% ne sert pas à boire, soit on fait deux réseaux, un pour l'eau potable, pour l'eau potable, mais ça coûte énormément cher, soit on fait de l'eau hygiénisée, comme on a dit, comme on dit, c'est-à-dire qui est potabilisable, et on traite à la fin, au lieu de faire de l'osmose inverse dans les centrales d'eau potable de potabilisation pour 90% qui sert à rien, on fait en terminale de l'osmose inverse pour la potabilisation de son eau. Parce que personnellement, vu mon âge, je ne crois pas qu'on arrivera à dépolluer notre eau avant que j'ai 6 pieds sous terre. Donc pour moi, la solution, d'ailleurs, on l'applique depuis maintenant 30 ans, on a notre osmose inverse et on ne demande surtout pas d'aller dépenser plein d'argent pour potabiliser, enlever les pesticides et tout ça dans les centrales pour 90% de l'eau où on n'a pas besoin.
Mais là, ça serait osmose inverse, ça serait des des appareils individuels fournis par les collectivités éventuellement ou financés mais individuels. Ça dépend où on se trouve, j'imagine. Il y a des endroits où on ne peut avoir que ça.
Bien sûr, ça pourrait être mutualisé, un peu comme ça se fait par exemple pour les composts. Il y a les syndicats d'ordre ménagère et ils fournissent des composteurs pour les gens, soit à bas prix, soit gratuitement et tout ça. Donc ça pourrait se faire de manière mutualisée. Je suis tout à fait favorable à ça. Mais avant que ça se fasse...
Mais non, courage. Il reste de belles années. Comme ce sont les deux dernières questions, on peut prendre le temps de répondre quand même, mais on n'en prendra plus d'autres. Sur la première question, par rapport aux protections des captages incitatifs et sur ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, de ce qui se passe un peu au niveau européen, voire international. Quels sont les autres modèles possibles? Est-ce qu'on est un bon élève? Est-ce que c'est intelligent ce qu'on fait?
Bah la situation est très très différente selon les pays de l'Union européenne. En Allemagne, chaque Länder a un programme agro-environnemental qui est basé sur le volontariat, qui est financé par les consommateurs d'eau. C'est eux qui financent toutes les mesures incitatives là-bas. Au Royaume-Uni, on n'a que des actions quasiment basées sur le volontariat. Par contre, très peu de mesures coercitives, contrairement à l'Espagne où on a beaucoup plus de restrictions d'usage dans des périmètres et d'obligations dans certains périmètres, donc des mesures plus contraignantes. Après, on a des bons exemples en Europe. On a par exemple, on parle souvent de la ville de Munich qui est pionnière dans la protection de ses captages et qui a acquis des terres dans les zones de captage à partir des années 70 et puis qui a commencé dans les années 90 à rémunérer les agriculteurs et à les convertir en bio. Et voilà, eux, ils ont une eau exempte de pesticides à Munich grâce à ce double procédé, acquisition du foncier et contractualisation avec les agriculteurs qui au début a été difficile. Au début, il y avait pas mal de réticences et en fait, après des décennies de travail, cette double contractualisation avec la société de production d'eau et avec la coopérative d'agriculture biologique qui fonctionne dans cette ville.
Oui.
Merci. Ouais, moi, je voudrais parler d'une initiative assez récente du Danemark qui vise à limiter la pollution au TFA et qui est, je trouve, exemplaire et qu'il faudrait suivre. En fait, le Danemark a pris l'initiative tout seul d'interdire tous les produits, je crois qu'il y en a 23, je crois qu'ils ont interdit 23 pesticides PFAS qui émettent du TFA. Alors que ces substances sont toujours autorisées au niveau européen. Ouh là là, ils ont fait de la surtransposition. Mais comme quoi, cet exemple du Danemark montre que les États membres ont la possibilité, même le devoir, de prendre des mesures, même si les substances sont toujours autorisées au niveau européen. On a fait la demande à l'ANSES, qui bien sûr nous a répondu, non, on attend que ce soit interdit au niveau européen. Et vous imaginez qu'on va essayer d'aller en justice pour attaquer cette réponse. Mais voilà, comme quoi, c'est le type d'initiative que certains pays font et que la France se refuse à faire. Évidemment, le contexte en France, quand on parle de surtransposition, c'est un terme faux d'ailleurs, parce que le règlement permet, laisse la possibilité aux États membres de prendre des mesures. C'est le règlement européen qui le dit. Mais voilà, dès qu'on parle de prendre des initiatives alors que les substances sont encore autorisées en Europe, c'est impossible en France, mais c'est pourtant ça qu'il faudrait faire, en tout cas pour les pesticides et le TFA.
Merci. Un tout petit dernier mot par rapport, on va parler un petit peu, parce que moi je connais les osmoseurs individuels. Est-ce que ces pistes-là sont complètement folles ou est-ce qu'un jour l'agence de l'eau peut se retrouver à financer des mécanismes comme ça et de différencier l'eau qui est vraiment potable de l'eau qui est utilisée en douche, en vaisselle, effectivement. Je ne sais pas quel est le pourcentage que ça représente, ce qu'on boit véritablement à la maison. Ça ne doit pas être loin de moins d'un pour cent probablement. Est-ce que ce sont des pistes qui sont folles pour l'agence de l'eau ou ce n'est pas votre problème et pas ce que vous étudiez en ce moment?
En réalité, à l'agence de l'eau, on finance des projets de recherche, d'innovation. Et parfois des projets proposés par des collectivités ou des structures qui peuvent aller dans ce sens-là. On finance des démonstrateurs aussi. Donc, effectivement, on s'intéresse à tout. Et je peux vous assurer que des fois, dans mon bureau, j'ai toutes sortes de projets qui essayent vraiment de trouver des solutions.
Donc, de particuliers ou d'associations ? Voilà, particuliers ou associations, c'est possible ?
Oui, c'est possible,
okay.
Tout à fait. Et voilà, on s'intéresse à tout ça et on a même une collègue là qui s'occupe de tous les projets d'innovation ou de démonstrateurs qui peuvent être mis en place. Donc ces questions sont par exemple parfois évoquées ou il y a des solutions qui nous sont proposées en tout cas. Et on s'y intéresse beaucoup, effectivement. On est là pour ça, j'allais dire.
Bon, écoutez, un petit mot de la fin pour l'agence régionale.
Juste, oui, non, c'est intéressant. C'est vrai qu'on en a discuté. Après, c'est vrai que la difficulté, ça va être que quand on a un traitement, le plus cher, c'est de mettre en place le traitement. Après, les quantités d'eau à amener, si on en amène pour l'eau potable, on peut en amener pour le reste. Aujourd'hui, au niveau de la réglementation, les normes au niveau des... pour se doucher, c'est les mêmes que pour l'eau potable. Notamment, ça se comprend pour la bactériologie. Si on a une plaie, si on a quelque chose, on doit avoir. Et vraiment, pour l'hygiène corporelle, c'est les mêmes normes que pour l'eau potable. Pour les pesticides, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, même si voilà, on va moins ingérer cette eau-là. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. C'est de fournir de l'eau potable à la population au niveau du robinet au niveau de son robinet pour tous les usages. Les ouvertures qu'il y a aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les eaux impropres à la consommation humaine, réutilisation des eaux grises, les possibilités. Là, j'étais la semaine dernière avec la région. Ils vont travailler sur un pilote sur un lycée pour pouvoir récupérer les eaux grises. Les eaux grises, c'est les eaux des douches, les eaux voilà, qui vont être réutilisées pour alimenter les chasses d'eau. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une hérésie de mettre de l'eau potable dans les chasses d'eau. C'est vrai que bon, on a pu l'accepter, et puis c'était quelque chose qui est quand même un luxe pendant un moment. Demain, on ne pourra plus. Et donc, c'est bien de travailler là-dessus et de limiter les consommations d'eau potable, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gâchis. Et c'est vrai de limiter l'eau potable vraiment à ce qui est vraiment indispensable, donc la consommation, l'hygiène corporelle, et puis quand on peut faire autre chose pour l'alimentation des chasses d'eau, pour arroser les jardins, pour laver sa voiture, oui. C'est mieux de faire attention à ces consommations-là.
Merci à tous les quatre, on peut les applaudir. Je vais vous laisser regagner vos places juste pour la conclusion, puisqu'on va demander à la présidente de France Nature Environnement de faire un petit mot de fin après cette journée riche. Hein, on nous l'avait annoncé riche au début, mais effectivement, elle l'a été.
Je vais être très, très courte. Merci beaucoup aux intervenants. Anna, qui a eu beaucoup de mal à venir avec un retard immense en train. Je vous fais quelques petites annonces. La première, c'est que les PowerPoint qui vous seront envoyés, ou en tout cas, on vous proposera un support pour que vous puissiez les récupérer. Vous nous laissez un petit peu souffler, ça ne sera peut-être pas avant la semaine prochaine. Vous aurez aussi les contacts du traiteur qui est sur Toulouse, qui ne fait pas que les grosses organisations, qui fait aussi les petites organisations que nous utilisons depuis déjà un certain temps. Donc c'est important aussi de les soutenir, ça fait partie des démarches. Ils ne s'approvisionnent que sur des producteurs locaux et bio. Ce que je voudrais vous dire, j'espère que cette journée a été intéressante, même si un peu... démoralisante parfois. Il faut continuer aussi quand même de ne pas être trop tiré vers le bas avec toujours des nouvelles qui ne sont pas bonnes et continuer aussi à s'émerveiller de la nature, c'est important. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que nous sommes en période électorale et que FNE au niveau national et nous tous dans le mouvement FNE depuis plusieurs années, nous sommes consternés par le niveau de nos élus à l'Assemblée nationale et au Sénat par rapport à leur écolo-bashing, on va dire, et leur non-prise en compte de l'environnement. Ça se joue aussi à l'Europe, on l'a bien compris, notamment sur l'eau. Et donc, je ne peux que vous engager à vous présenter aux élections qui viennent. Ça commence par les élections municipales, mais on ne sait jamais, c'est aussi porteur pour d'autres niveaux électoraux. Il est hyper important aujourd'hui de renouveler le corps électoral d'une manière ou d'une autre. car c'est aussi un frein, vous l'avez compris, un frein réglementaire, un frein de lobbying, hein, parce qu'ils sont un peu trop attentifs à tous ces lobbies. Il est fondamental autour de vous de dire à la jeune génération, engagez-vous, n'hésitez pas à vous présenter aux élections. Et je pense vraiment, j'ai beaucoup de conviction dans le fait que la nouvelle génération et les nouveaux élus feront avancer les choses. On a vraiment besoin de ce renouvellement. Voilà. Bon retour à tous et merci d'être venus.